Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pilice, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Donc nous avançons dans ce traité très important des vices et des péchés, donc qui couvre les questions 71 à 89 dans la prima secundae, la première partie de la seconde partie de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Donc nous allons maintenant attaquer la question 79, pardon, la question, non pas 79, la question 85, c'est là où on en est, les effets du péché sur notre nature. Je vous rappelle donc l'importance de ce traité qui va nous aider à comprendre d'une part ce qu'est le péché, les conséquences du péché sur le sacré-cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, et en même temps va nous aider à comprendre l'immense miséricorde du bon Dieu pour le pécheur repentant. Saint Thomas d'Aquin va prendre comme exemple l'histoire qu'on trouve dans Saint Luc au chapitre 10, verset 30. Prenons l'histoire du bon samaritain. Vous connaissez tous cette histoire qui est un peu notre histoire, il faut bien avouer ce qui est. Donc un homme descend de Jérusalem à Jéricho et il tombe aux mains de brigands qui vont dérober tout ce qu'il a et le laisser sur le bord de la route à moitié mort. Alors, le bon samaritain va heureusement arriver et il va le prendre, le mettre sur son âne et l'amener à l'auberge. Où là, il va le confier au l'aubergiste. Alors, cette histoire donc, du bon samaritain, de l'homme en question qui tombe aux mains de brigands, c'est l'histoire de l'homme tout simplement en général. Cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est une interprétation classique des pères de l'Église. Donc c'est l'homme qui tombe dans le péché. Jérusalem, c'est le sens allégorique du mot Jérusalem. Jérusalem, ça veut dire la vision de paix, c'est le ciel. Jéricho, c'est la terre ici-bas. Donc l'homme qui passe du ciel à la terre, c'est l'homme qui tombe dans le péché mortel. L'homme qui tombe dans le péché mortel, c'est l'homme qui perd la grâce du bon Dieu. La grâce du bon Dieu est déjà un avant-goût du ciel, donc c'est comme quelqu'un qui perd le paradis. Et saint Thomas fait bien remarquer, justement, et les pères, dans tous leurs commentaires sur ce passage de saint Luc, font bien remarquer que l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, donc l'homme qui perd le bon Dieu par la faute du péché mortel, n'est pas mort, il est à moitié mort. S'il était mort, il n'y a plus rien à faire. Il est à moitié mort, c'est la raison pour laquelle le samaritain peut le prendre, verser sur lui l'huile des sacrements, le vin des sacrements, sacrement de pénitence, sacrement de la Sainte Eucharistie, et le mettre sur son âne pour l'amener à l'aubergiste. L'âne représente l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, l'homme dont il est question, qui descend de Jérusalem et Jéricho, c'est celui, dit saint Thomas, qui tombe dans le désordre du péché, qui est de ce fait dépouillé des dons de grâce et blessé dans ceux de nature. C'est un commentaire, en fait, qui vient de saint Bède le Vénérable. Le péché diminue donc le bien de nature. Donc saint Thomas va se poser la question, le bien de nature est-il diminué par le péché? C'est-à-dire, quelles sont les conséquences du péché dans notre âme? C'est très important de bien connaître cette partie d'enseignement de l'Église pour ne pas tomber dans les erreurs protestantes. Qu'est-ce que disait Luther? Luther disait que le péché mortel détruisait les puissances mêmes de l'âme et que donc l'homme se retrouvait dans une incapacité, et je dirais fondamentale, de suivre la loi des commandements de Dieu parce que cette loi devenait impossible pour lui. La loi demeurait toujours, les 10 commandements de Dieu, mais personne ne pouvait plus la suivre parce que notre intelligence était, et notre volonté étaient tellement détruites par le péché que cette intelligence était devenue incapable d'atteindre le vrai et le bien d'atteindre le bien. Eh bien, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Saint Thomas va donc expliquer que les puissances de notre âme existent toujours. Les principes constitutifs de la nature elle-même, avec les propriétés qui en découlent, dit-il, comme les puissances de l'âme et autres réalités du même genre, donc ne sont ni enlevées ni diminuées par le péché. Lorsque saint Thomas donne le titre de cet article, « Bien de nature est-il diminué par le péché ?» Il faut savoir de quel bien de nature il s'agit. En fait, il y en a trois, c'est ce qu'il va expliquer, je vais essayer d'expliquer à sa suite. Il y a le bien de nature qui est représenté par les puissances mêmes de l'âme, et qu'il y a quatre puissances essentielles dans l'âme. Il y a la volonté, l'intelligence, l'irascible et le concupiscible. J'ai déjà expliqué tout ça, donc je n'y reviens pas. Et donc, une partie de les puissances de l'âme en elle-même existent toujours avant et après le péché originel. L'homme garde l'intelligence pour atteindre le vrai, la volonté pour atteindre le bien, l'irascible pour atteindre le bien ardu et le concupiscible pour atteindre le bien désirable. Ces choses-là ne changent pas. La nature est toujours là. La nature humaine n'est pas détruite par le péché originel, par le péché d'Adam et Ève et par le péché mortel par la suite. Le deuxième bien de nature, voilà ce que dit saint Thomas, puisque la nature donne à l'homme de l'inclination à la vertu, dans le sens que nous avons dit plus haut, cette inclination à la vertu est un bien de nature. Donc il y a dans l'homme, dans l'âme plus exactement, une inclination à la vertu. C'est-à-dire un désir naturel de pratiquer la vertu. Et enfin, troisième don de nature, d'après saint Thomas d'Aquin, on peut, dit-il, appeler bien de nature le don de la justice originelle qui fut en la personne du premier homme accordé à l'humanité tout entière. Donc Adam et Ève ont été créés par Dieu en état de grâce, dans un état qu'on appelle état de justice originelle. Bon, le problème, c'est que en mangeant le fruit défendu, Adam et Ève ont acquis un don supplémentaire dont ils se seraient bien passés, à savoir le don de la liberté. Et donc, la possibilité de perdre ce don de justice originelle. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, de ces trois dons donc, vont nous occuper dans cette question. Donc, question 85, article 1. Je répète les trois dons. Le premier don, les trois biens de nature. Premier bien de nature, les puissances mêmes de l'âme. Deuxième bien de nature, l'inclination à la vertu. Troisième bien de nature, la justice originelle. Et donc, le péché originel va avoir des conséquences différentes selon le bien de nature duquel on parle. Alors, voyons d'abord le premier bien de nature. Je rappelle que le premier bien de nature, ce sont les puissances de l'âme. En théologie, on utilise pour expliquer ce qui se passe dans les puissances de l'âme une petite phrase latine, naturalia manserunt integra, tout ça dans tous les livres de théologie traditionnelle. La nature, les biens de nature, c'est de ça dont il parle ici, les biens de nature demeurent intègres. C'est-à-dire, les biens de nature demeurent sans destruction. Bon, on est toujours avec une âme, l'âme n'est pas détruite par le péché originel, donc l'âme étant une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, d'irascible et de concupiscible, l'âme, même après le péché mortel, même après le péché originel, garde cette intelligence, cette volonté, cette irascible et ce concupiscible. C'est-à-dire que l'homme est toujours capable de se diriger vers le bien. Bon. Naturalia manserunt integra, ça veut dire donc que les puissances de l'âme demeurent intègres. Elles ne sont pas détruites par le péché originel. Contrairement à ce que disent les protestants. Deuxième bien, l'inclination à la vertu. Deuxième bien de nature. Eh bien, saint Thomas va expliquer que cette inclination naturelle à la vertu est diminuée par le péché. Comme un oiseau, si vous voulez, qui essaie de voler, qui a un fil à la patte. Maintenant qu'il a un fil à la patte, bon, bien évidemment, il a un poids supplémentaire à porter quand il vole. Il ne peut plus voler aussi bien, aussi vite et aussi haut qu'il le faisait avant, parce que justement, ce fil à la patte l'incline constamment vers les choses terrestres. Bien, le Moyen-Âge chrétien utilisait une autre petite formule latine pour expliquer ce fait, vulneratus in naturalibus. Ça veut dire que les choses naturelles sont blessées. À savoir que par le péché originel, le bien de nature, à savoir donc ce désir naturel du bien, Ce don de nature est diminué par le péché. Plus le péché augmente, plus l'inclination à la vertu va diminuer. Lorsque le péché a même pris une place tellement considérable dans notre âme qu'elle est plus qu'un péché, devenu un vice par exemple, ben l'inclination à la vertu contraire devient de plus en plus faible, et même dans certains cas, pour certaines vertus, elles peuvent être, cette inclination à cette vertu va disparaître pratiquement complètement, parce que le vice est devenu tellement grand dans cette âme que on peut plus rien faire contre cela. L'image très classique qu'on utilise pour expliquer, qui est utilisée par les pères de l'Église, c'est l'image du jardinier. Du jardinier, j'ai expliqué souvent cette image, j'utilise très souvent en prédication quand je donne des cours. L'image du jardinier, le jardinier, il passe tous les matins pour enlever les mauvaises herbes. Mais s'il se met en grève, ou s'il est fatigué ou malade et qu'il attend plusieurs jours avant de passer enlever ses mauvaises herbes dans le jardin, ben les mauvaises herbes ont le temps de grandir. S'il attend tellement longtemps que les mauvaises herbes sont devenues des petits arbres, ben pratiquement elles deviennent indéracinables. Mais c'est la même chose dans notre âme. Donc plus on attend en luttant, plus on attend sans lutter contre ces mauvaises tendances que nous avons en nous à cause du péché originel, plus cette inclination au péché va augmenter. Et donc évidemment, c'est un peu la loi des vases communicants, plus un plateau de la balance monte, l'autre plateau va automatiquement descendre. Donc plus le plateau du péché monte, plus le plateau de la vertu va descendre. Plus au contraire le plateau du péché descend, et plus le plateau de la vertu augmente, et l'inverse est vrai aussi. Et plus j'augmente en mon âme l'amour de la vertu, surtout par la pratique des sacrements, pratique du sacrement de pénitence, pratique du sacrement de la Sainte Eucharistie, la prière, la pénitence, etc., plus j'augmente, je fais monter le plateau de l'inclination à la vertu, et bien plus évidemment le plateau de la tendance au péché, l'inclination au péché, lui, va descendre. Et c'est ce que les anciens traduisaient par cette petite phrase latine dont je vous ai déjà parlé, « Vulneratus in naturalibus ». Les choses naturelles, les biens naturels, sont blessés. Et nous allons voir dans l'article 3 de cette même question 85, justement, quelles sont ces quatre blessures. J'en ai déjà souvent parlé dans les cours, parce que c'est un point très important. Monseigneur Lefebvre, dans la formation qu'il nous a donnée au séminaire des Cônes, insistait très souvent sur cette partie de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Dans beaucoup des conférences qu'il nous a données, conférences spirituelles et conférences surtout retraites de préparation aux ordres, retraites de préparation à la fête de Pâques, etc., il a très souvent parlé justement de ces blessures du péché originel pour nous faire comprendre la nécessité absolue pour nous d'utiliser les quatre vertus cardinales pour lutter contre ces blessures. On va expliquer ensuite. Venons maintenant au troisième bien de nature. Le troisième bien de nature, c'est l'existence dans l'âme d'Adam et Ève, la justice originelle, donc la grâce sanctifiante si vous voulez. La justice originelle est totalement détruite par le péché originel. Le péché originel va effacer totalement de l'âme d'Adam et Ève, la justice originelle. Donc cette faute de notre premier père va totalement enlever ce bien de nature qui est la justice originelle. Et les anciens traduisaient cela par une petite phrase latine, spoliatus gratuitis. C'est-à-dire, les dons gratuits sont éliminés. Cette justice originelle se traduisait entre autres par les dons préternaturels d'impassibilité, d'immortalité, de science infuse. Ces dons, si vous voulez, préternaturels, étaient totalement été éliminés par le péché originel. Ils sont devenus mortels, ils ont commencé à souffrir. Le don d'intégrité également a disparu et la science infuse aussi a disparu pour Adam et Ève. Donc je vous rappelle ces trois petites phrases qui sont très importantes. On avait souvent dans les examens que nous passions au séminaire d'école, pendant notre formation, c'est une question classique de théologie dogmatique, expliquer les trois phrases Naturalia manserunt integra, spoliatus gratuitis, vulneratus in naturalibus. Il fallait expliquer tout ça en utilisant justement l'enseignement de saint Thomas. Donc je répète ces trois phrases parce qu'elles sont très importantes. Première phrase, Naturalia manserunt integra. Les pouvoirs, les puissances de notre âme restent intègres, existent toujours. Donc on garde, même après le péché originel, l'intelligence, la volonté, les racines concupiscibles. Deuxième phrase, vulneratus in naturalibus, l'inclination à la vertu qui existait comme conséquence de la justice originelle, évidemment, va être diminuée. Et enfin, troisième phrase, spoliatus gratuitis, les dons préternaturels, la justice originelle, la grâce sanctifiante, va être détruite. La justice originelle va être détruite de façon définitive, les dons préternaturels vont être aussi détruits de façon définitive, la grâce sanctifiante va être détruite par le péché grave, mais Dieu, dans sa miséricorde, permet à une âme de retrouver la grâce sanctifiante par un acte de contrition parfaite ou l'usage d'une bonne confession. Attention, même après une bonne confession, une bonne communion, on retrouve l'état de grâce, certes, la grâce habituelle, la grâce sanctifiante, mais on ne retrouve pas la justice originelle. Ça, c'est très important à comprendre. Beaucoup de gens ignorent cette partie de la théologie dogmatique de l'Église catholique et pensent, par exemple, qu'après le baptême, on se retrouve plus ou moins dans l'état d'Adam et Ève avant le péché originel. C'est faux. Parce que Adam et Ève avaient, avant le péché originel, des dons préternaturels. Je le répète, l'impassibilité, l'immortalité, la science infuse. La science infuse et l'intégrité, et ces dons sont définitivement perdus pour nous. Donc le baptême ne va pas rendre ces dons. Le baptême, certes, enlève le péché originel. En fait, le baptême donne la vertu de charité à l'âme, donc le péché originel saute, mais les dons ne reviennent pas, les dons ne sont pas redonnés. Et donc il faut garder les pieds sur la terre. L'homme, même après le baptême, ne devient pas un ange. Il reste quelqu'un de faible, il garde, si vous voulez, en lui une nature viciée par le péché, il garde une nature tombée à cause du péché originel. Il va falloir donc passer cet état de nature tombée à cet état de nature rachetée justement par la grâce sanctifiante. Et même lorsque la grâce sanctifiante a racheté, par une bonne confession, un acte de contrition parfaite, a racheté une âme, ça ne veut pas dire que cet état de nature rachetée va durer éternellement. Malheureusement, la liberté demeure dans cette âme et à cause du mauvais usage de cette liberté, l'homme peut de nouveau reperdre la grâce sanctifiante en lui et repasser d'état de nature rachetée à état de nature blessée par le péché. Alors revenons au texte de saint Thomas, donc dans cet article 1er de la question 85. Voilà ce que dit saint Thomas, donc on est à la page 60 dans le polycopié, page 60, en bas de la page 60, deuxième paragraphe avant la fin de la page. Les actes humains engendrent un penchant aux actes semblables. Du fait qu'il est incliné à l'un des contraires, l'inclination à l'autre est diminuée. C'est ce que j'ai expliqué, c'est les deux plateaux de la balance. Plus l'amour du péché augmente, plus l'amour de la vertu diminue. Plus l'amour de la vertu augmente, plus l'amour du péché diminue. Puisque le péché est contraire à la vertu, dit saint Thomas, du fait que l'homme pêche, ce bien de nature qui est l'inclination à la vertu se trouve diminué. Trouve diminué, c'est ce qu'on appelle l'expression qui explique cela, c'est vulneratus in naturalibus. Les biens de nature, le bien de nature, l'inclination à la vertu est diminuée. Vulneratus in naturalibus, vulnus, vulnerare, c'est blessé en latin. Donc, vulneratus in naturalibus, les biens de nature sont blessés. On arrive encore à pratiquer la vertu, mais c'est difficile parce que justement, le péché a fait tellement de ravages dans nos âmes que, bien évidemment, l'inclination à la vertu diminue. Le mal ne peut exister que dans un bien. Donc, c'est ce que dit saint Thomas, ça semble bizarre, mais c'est comme ça qu'il l'explique. Le mal ne peut exister que dans un bien, même dans un damné, il demeure une inclination naturelle à la vertu. Il y a encore des choses bonnes dans un damné. Il y a encore des choses bonnes dans le démon. Le démon, par exemple, même le prince des démons, Lucifer, garde une nature angélique, quelque chose de bon. Le damné en enfer, l'homme damné, l'âme damnée en enfer, malheureusement, garde une intelligence, garde une âme qui souffre. C'est l'âme qui souffre actuellement en enfer, puisque les corps ne sont pas encore en enfer. Ce sera qu'après la résurrection générale que les corps des damnés vont rejoindre l'âme des damnés en enfer. Mais il faut bien comprendre cela, vous voyez. Même chez les damnés, il demeure une inclination naturelle à la vertu, autrement on n'irait pas, on a de remords de conscience. Pourquoi est-ce qu'il y a un remords de conscience chez les damnés? Parce que justement, ils savent qu'ils ont été créés pour le bien, qu'ils ont été créés pour Dieu. Et donc, ce fait de savoir qu'on a été créé pour Dieu, c'est quelque chose de bon. Mais si cette inclination ne passe pas à l'axe, il y a moyen de ce que par un dessein de la justice divine, la grâce fait défaut. Donc ici-bas, tant qu'on est sur la terre, la grâce peut revenir. N'oubliez pas que pour changer de vie, il faut la grâce du bon Dieu. On ne peut pas changer de vie sans la grâce du bon Dieu. Il faut du temps, il faut l'usage de notre liberté, il faut la grâce divine. C'est trois choses nécessaires pour changer de vie. Ici-bas, nous avons le temps, la grâce du bon Dieu et l'usage de notre liberté. Donc on peut changer. Mais encore une fois, une fois que nous sommes en enfer, malheureusement, quelqu'un qui est tombé en enfer, il n'y a plus de temps. Il est dans l'éternité, donc il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'usage de sa liberté, il n'y a plus de grâce du bon Dieu, donc il ne peut plus changer. C'est pour ça que les pères disent que lorsqu'une âme tombe en enfer, au moment qu'elle est en enfer, elle reste dans la position même dans laquelle elle est tombée en enfer. Elle tombe en enfer, et bien elle va rester dans cette position pendant toute l'éternité, parce que justement, n'étant plus dans le temps, mais dans l'éternité, on ne peut plus changer. Il faut du temps pour changer. Il faut du temps pour passer de la puissance à l'âme, ce ne sera plus possible, et donc cette âme va rester dans cet état sans pouvoir changer. Voilà donc, c'est ce premier article donc de la question 85, qui est absolument, absolument fondamental, certainement un des articles les plus importants de la somme. Donc, bien faire ces distinctions, éventuellement, pour ceux qui ont le texte même de saint Thomas, je vous conseille beaucoup d'aller voir le texte complet de saint Thomas, d'analyser les objections, les réponses aux objections, le texte même du corps de l'article, de la première prima secondée, question 85, article 1. Dans l'article 2, je vais rapidement résumer, puisque je l'ai mis dans le polycopier, donc en bas de la page 60, que certaines parties, les parties que je trouve les plus belles, donc évidemment, je n'ai pas le temps de parler de tout. Saint Thomas va se poser comme deuxième question, donc l'article 2, la question 85, la prima secondée, le péché peut-il détruire entièrement le bien de la nature humaine? En fait, on a déjà répondu par l'explication que j'ai donnée. L'homme possède l'inclination à la vertu par le fait seul qu'il est raisonnable. Le péché ne fait pas que l'homme ne soit plus un être raisonnable, parce qu'alors il lui ravirait la capacité même de pécher. On reste un homme même après le péché mortel. Un homme, c'est quoi? Un homme, c'est l'union d'un corps et d'une âme. Qu'est-ce que c'est qu'une âme? Une âme, c'est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. Donc tous les hommes ont une âme. Donc tous les hommes ont une âme douée d'intelligence et de volonté. Un homme qui n'a pas d'âme, c'est plus un homme. Un cheval, un chien n'ont pas d'âme intellectuelle, n'ont pas d'âme raisonnable. Puisqu'on a une âme, on garde en nous l'intelligence et la bonté. Donc on garde de façon définitive, tant qu'on est homme, tant qu'on a cette nature humaine, on garde l'intelligence et la volonté. Est-ce que les âmes au ciel ou les âmes en enfer, malheureusement, est-ce qu'elles ne sont pas toujours des âmes humaines? Bien sûr qu'elles sont des âmes humaines qui sont supposées être unies à un corps. C'est la raison pour laquelle, au moment du jugement général, le corps va rejoindre son âme. Parce que l'âme ne peut pas être, si vous voulez, on peut presque dire être incomplète sans le corps qu'elle doit animer. L'âme étant la forme du corps. Passons maintenant à au troisième article de la somme théologique, question 85, article 3, en bas de la page 60. Le péché fait-il quatre blessures à la nature ? Ce sont des choses dont j'ai déjà souvent parlé, mais je vais réexpliquer cela directement avec le texte de saint Thomas. Donc encore une fois, pour comprendre, attention, pour bien comprendre cette question, l'article 3, la question 85, il faut partir de l'article 1, la question 85, parce que l'article 3 n'est que la conséquence de l'article 1. Donc relisez bien l'article 1, au moins dans le polycopier, page 60, une fois que vous avez bien compris ça, à ce moment-là, on peut attaquer l'article 3. Donc les quatre blessures qui, selon saint Bède le Vénérable, ont frappé la nature humaine à cause du péché, est-ce qu'elles existent ? Bon. Alors, saint Thomas a donc expliqué que toutes les facultés de l'âme demeurent en quelque manière dépouillées de leur ordre propre qui les porte naturellement à la vertu. Et ce dépouillement est appelé une blessure infligée à la nature. Blessure, ça ne veut pas dire destruction, ça veut dire faiblesse. Quand vous vous blessez à un endroit de votre corps, cette partie du corps est faible. Bon, imaginez, vous soyez coupé la peau du doigt avec un couteau, en épluchant vos pommes de terre, bon, eh bien, on met un petit point de suture si c'est nécessaire, si la blessure est trop profonde, et puis la peau va se recoller, les muscles vont se recoller, il n'y a plus de coulée de sang, mais il reste une suture, il reste une cicatrice, et cette partie de la peau va rester plus faible. Pourquoi ? Parce qu'elle a été blessée. Certes, la peau s'est reformée, certes, la peau s'est recollée, la coupure s'est recollée, mais cette partie reste fragile. Hein. Donc c'est ce que saint Thomas appelle une blessure. Blessure de l'intelligence, ça ne veut pas dire destruction de l'intelligence. Blessure de la volonté, ça ne veut pas dire destruction de la volonté. Encore une fois, ça, c'est très important pour lutter contre les protestants. Les protestants pensent pratiquement tous, selon les sectes, mais presque toutes les sectes disent que les blessures du péché originel ont détruit l'âme. L'âme n'est plus capable d'atteindre le bien. Et notons aussi que dans l'église de Bergoglio, l'église de Vatican II, c'est également l'enseignement très fréquent chez les prêtres modernistes, très très fréquent. J'ai connu, je me rappelle, un prêtre moderniste que j'avais rencontré en Espagne qui me disait, mais mon père, depuis le péché originel, l'homme n'est plus capable de suivre les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu sont une demande que Dieu nous fait qui dépasse nos forces. Nous sommes incapables maintenant de suivre les commandements de Dieu parce que cette demande, l'âme elle-même, les puissances de l'âme sont détruites. C'est faux, les puissances de l'âme demeurent. Alors voyons maintenant en haut de la page 61 dans le polycopier. Donc voilà ce que va expliquer saint Thomas d'Aquin. Il y a dans l'âme quatre puissances qui peuvent être le sujet des vertus. Donc, la raison, la volonté, l'irascible, le concupiscible. Je rappelle, l'objet de la raison ou l'intelligence. L'intelligence et la raison, c'est la même chose. Hein. Donc l'objet de l'intelligence, c'est le vrai. L'objet de la volonté, c'est le bien. L'objet de l'irascible, c'est le bien ardu, difficile à trouver, difficile à obtenir. Et l'objet de la concupiscence, c'est le bien désirable. Donc ces quatre puissances, intelligence, volonté, irascible et concupiscible, peuvent être les sujets des vertus. Donc, dans l'intelligence va résider la vertu de prudence. Dans la volonté va résider la vertu de justice. Dans l'irascible va résister la vertu de force. Et dans le concupiscible, la vertu de tempérance. On voit là intervenir les quatre vertus cardinales. Vous savez que toute la vie spirituelle de l'âme tourne autour de sept grandes vertus, les trois vertus théologales et les quatre vertus cardinal, les trois vertus théologales qui forment en quelque sorte la voûte de l'église qu'on construit. On peut comparer une âme à une église qu'on construit. Eh bien, les trois vertus théologales, foi, espérance, charité, constituent vraiment la voûte, la partie la plus belle. Donc la foi pour croire, l'espérance pour prier, et la charité pour obéir à la loi du bon Dieu. Donc, la foi, l'espérance et la charité sont des vertus théologale, ça veut dire théologale, ces vertus qui ont pour objet Dieu directement. Bon. Mais on n'aime pas le bon Dieu au ciel, on n'est pas encore au ciel. Donc on est sur la terre, et sur la terre, il y a des contacts avec les gens autour de nous. Donc il faut que le bon Dieu nous donne aussi des vertus pour nous occuper du prochain. Et donc c'est ce qu'on appelle les vertus cardinales. Les vertus cardinales vont ouvrir encore davantage la porte de notre âme au travail de la grâce. Vous savez que cardo en latin, ça veut dire le gond de la porte. Donc les vertus cardinales, c'est les vertus qui servent de gond, porte de l'âme, pour ouvrir l'âme au travail de la grâce. Donc il y a quatre vertus cardinales, la prudence, la justice, la force, la tempérance. Bon. Donc, saint Thomas rappelle la doctrine, la prudence travaille avec l'intelligence, la justice avec la volonté, la force avec la... l'irascible, et la tempérance avec le concupiscible. Bon. Donc, le péché originel va atteindre tellement profondément l'âme que les quatre vertus, les quatre puissances de notre âme vont être touchées par le péché originel. C'est-à-dire qu'il va y avoir une blessure dans l'intelligence, une blessure dans la volonté, une blessure dans l'irascible et une blessure pour le concupiscible. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué, n'oubliez pas, pour oublier de ce que j'ai expliqué avant, si on ne comprend plus rien, que ces blessures ne vont pas détruire les puissances. Donc l'intelligence demeure, la volonté demeure, l'irascible demeure, le concupiscible demeure. Mais ces blessures sont là. C'est-à-dire que l'intelligence, la volonté, l'irascible et le concupiscible vont avoir une faiblesse. Rappelez-vous ce qu'a dit saint Thomas, « vulneratus in naturalibus ». L'inclination à la vertu est diminuée par le péché, et cette inclination à la vertu va diminuer par le péché, et dans l'intelligence, et dans la volonté, et dans l'irascible, et dans le concupiscible. Bon. Donc, lorsque, par le péché originel, l'intelligence ou la raison est blessée par ce qu'on appelle l'ignorance. La raison, l'intelligence, est donc dépouillée de son adaptation au vrai. Donc il y a une blessure qui est là. Bon, la blessure d'ignorance. Bon. La volonté est blessée également par la blessure de la malice. La volonté est donc dépouillée de son adaptation au bien, dit simplement. L'irascible est blessé par la faiblesse. Et l'irascible est donc dépouillé de son adaptation à ce qui est ardu. Enfin, le concupiscible est blessé par la concupiscence, c'est-à-dire le désir non raisonnable des biens qui sont autour de nous. Et donc, ce concupiscible est dépouillé, dit saint Thomas, de son adaptation à des plaisirs modérés par la raison. Pour simplifier, si vous voulez, la révolution est rentrée dans la maison. Voilà. L'esprit révolutionnaire est rentré dans la maison. Avant le péché originel, Adam et Ève étaient soumis à la volonté divine. Avec le péché originel, ils commencent à crier au bon Dieu, à la face du bon Dieu, « Nous ne servirons pas. Je ne servirai pas. » Donc c'est l'intelligence qui se dresse contre Dieu, la volonté se dresse contre Dieu, l'irascible se dresse contre Dieu et la concupiscible se dresse contre Dieu. Donc il y a quatre blessures extrêmement importantes, l'ignorance, la malice, la faiblesse, saint Thomas appelle ça l'infirmité, mais ça correspond à la faiblesse, et concupiscible. Et pardon, la concupiscence. Excusez-moi, je fais une erreur. En fait, sur mon papier, je corrige, concupiscence. Donc, quatre blessures, ignorance, malice, faiblesse, concupiscence. Ces blessures sont telles que l'homme ne peut plus lutter contre les conséquences de ces blessures sans une aide surnaturelle. Le bon Dieu va nous donner cette aide surnaturelle par les quatre vertus cardinales. C'est pour ça qu'il y a quatre vertus cardinales. Pourquoi quatre vertus cardinales et pas trois ou cinq? Parce qu'il y a tout simplement quatre puissances de notre âme. Donc la prudence va nous aider à juguler l'ignorance, la justice va nous aider à juguler la malice, la force va nous aider à juguler la faiblesse, l'infirmité, et la tempérance va nous donner la force, le pouvoir de lutter contre la concupiscence. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et concupiscence de l'orgueil. Pour être complet, il faut rajouter les trois vertus qui vont nous permettre de lutter contre les trois concupiscences en particulier. Pauvreté, la chasteté, l'obéissance. pauvreté contre la concupiscence des yeux, chasteté contre la concupiscence de la chair, et obéissance contre l'orgueil. Donc, voyez comment l'âme est protégée, renforcée. On peut dire que la colonne vertébrale, le squelette de l'âme, ce sont les trois vertus théologales, foi, espérance et charité, et les quatre vertus cardinales, prudence, justice, force et tempérance. Donc, blessure d'ignorance, qui dépouille la raison de son adaptation au vrai, blessure de malice, qui dépouille la volonté de son adaptation au bien, blessure de faiblesse ou d'infirmité, qui dépouille l'irascible de son adaptation à ce qui est ardu, et blessure de la concupiscence, de convoitise, qui dépouille le concupiscible de son adaptation à des plaisirs modérés par la raison. Donc, dans le texte de saint Thomas, attention, souvent il prend un mot pour un autre, il l'égalise, il a raison d'ailleurs, faiblesse ou infirmité, et concupiscence et convoitise. C'est effectivement la même chose. On peut dire que le mot convoitise est un synonyme du mot concupiscence, et que le mot infirmité est un synonyme du mot faiblesse. Alors, cette partie de la somme est absolument fondamentale. Tout le modernisme, si vous voulez, vient du fait que les modernistes ne croient plus en l'existence de ces blessures. Pour eux, l'homme est devenu bon. Donc il y a deux, si vous voulez, dans ce domaine, deux erreurs à éviter. Première erreur, c'est de dire l'homme est devenu tellement mauvais, tellement pourri, tellement détruit par le péché originel qu'il ne peut plus rien faire. Il est incapable donc de suivre la loi des commandements de Dieu, des 10 commandements de Dieu. Donc quand il pêche, c'est plus de sa faute. Tout simplement, le bon Dieu lui demande quelque chose qui est au-delà de ses forces. Donc il ne peut plus suivre la loi des commandements de Dieu. Donc il n'est plus responsable de ses péchés. Ce que disait Martin Luther, il disait, c'était sa conclusion, pêche fortement, mais crois plus fortement encore. Donc tu crois, tu as la foi efface le péché, par la seule foi notre Seigneur Jésus-Christ. Donc t'inquiète pas, c'est pas de ta faute si tu pêches, puisque le bon Dieu nous demande maintenant quelque chose qu'on ne peut plus lui donner, puisque c'est au-delà de nos forces. Donc du moment que tu crois, la foi détruit le péché. Ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, c'est l'inverse. Ça consiste à dire que les blessures de notre âme ont été totalement éliminées, évacuées par le baptême. Le baptême fait de nous des enfants de Dieu, ce qui est vrai. Le baptême donc nous rend dans l'état de justice originelle dans lequel étaient Adam et Ève avant le péché originel. Et ça, c'est faux. Je vous l'ai déjà expliqué, l'état de justice originelle est perdu de façon définitive. Pas simplement pour Adam et Ève, mais aussi pour toute leur descendance. Donc, page 61, donc en haut de la page 61, donc j'insiste sur ces deux choses. Donc, page 60 sur le polycopier, donc au milieu de l'article 1, les trois petites phrases latines, naturalia manserunt integra spoliatus gratuitis vulneratus in naturalibus, j'ai expliqué déjà, et le haut de la page 61 du polycopier, donc c'est quatre blessures. On résume, je résume de nouveau, je m'excuse de me répéter, mais c'est l'expérience qui montre qu'il faut répéter constamment dans l'enseignement qu'on donne aux fidèles, respecter toujours les mêmes, répéter toujours les mêmes choses, mais en les expliquant de façon différente pour être sûr que ça rentre dans l'esprit. Donc, Dieu nous a donné une inclination vraie, c'est l'intelligence. Cette intelligence est blessée par la blessure d'ignorance, et donc il va falloir utiliser la vertu cardinale de prudence pour enrayer cette ignorance. L'objet de la volonté, c'est le bien. Cette volonté est blessée par la malice, et donc il va falloir utiliser la vertu cardinale de justice pour rendre à chacun ce qui lui est dû. L'irascible est attaqué et a pour but, pour objet formel, le bien ardu. Cet irascible est attaqué par la blessure d'infirmité, de faiblesse, et donc il faut la vertu cardinale de force. Et enfin, le concupiscible, qui a pour objet le bien désirable, est attaqué par la concupiscence, par la convoitise, et il faut donc utiliser la vertu cardinale de tempérance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la foi, l'espérance et la charité, les trois grandes vertus théologales, prudence, justice, force et tempérance, les quatre vertus cardinales, eh bien, on peut remettre l'homme dans le bon sens, l'âme de l'homme dans le bon sens, avec les pieds sur la terre et la tête vers le ciel. Alors, les péchés, si vous voulez, sont différents les uns des autres, mais les péchés vont toujours tomber dans une de ces quatre catégories. Où sont les péchés d'ignorance, où sont les péchés de malice, ou les péchés de faiblesse, ou les péchés de concupiscence. Bon. Soit contre les yeux, soit contre la chair, soit l'orgueil. Donc il y a des liens entre ces choses-là. L'orgueil, par exemple, est une conséquence directe de l'ignorance. C'est parce qu'on a une blessure d'ignorance dans l'intelligence qu'on se prend pour ce qu'on n'est pas, qu'on se croit plus malin que les autres, qu'on tombe dans l'orgueil. Exemple. Un mensonge, par exemple. Un mensonge est un péché de malice. La gourmandise. La gourmandise, c'est un péché de concupiscence. Hein. Concupiscence des yeux, en fait. Péché d'impureté. Péché d'impureté, c'est des péchés qui de concupiscence de la chair. Hein. L'orgueil, c'est l'ignorance. Voyez. Donc on voit très bien comment il nous faut un petit peu, en tant que catholique surtout, bien utiliser ces vertus, les vertus de prudence, justice, force et tempérance, les quatre grandes vertus cardinales, pour justement juguler cette inclination au péché, parce que notre inclination naturelle à la vertu est diminuée justement par ce péché. Ce sont donc là, dit saint Thomas, les quatre blessures infligées à toute la nature humaine par le péché du premier père, Adam. On est dans le deuxième paragraphe de la page 61 sur le polycopie. Parce que l'inclination au bien de la vertu est diminuée en chaque homme par le péché actuel, ces quatre blessures sont en outre consécutives aux autres péchés. C'est-à-dire que par le péché, la raison se trouve diminuée, hébétée. L'intelligence est blessée justement par cette ignorance, surtout en matière d'action, et la volonté endurcie à l'égard du bien. Cependant que s'accroît la difficulté de bien agir et la convoitise qui s'enflamme davantage. Donc quatre conséquences du péché, dans l'idée de saint Thomas d'Aquin, l'hébétude dans la raison, l'endurcissement contre le bien dans la volonté, la difficulté de bien agir dans l'irascible et la convoitise dans le concupiscible. La convoitise donc est naturelle à l'homme dans la mesure où elle est soumise à la raison. C'est pour ça que la concupiscible est quelque chose de bon. Il ne faut pas mélanger les deux mots. Concupiscible, c'est une tendance à désirer le bien désirable, ce qui est une bonne chose, à condition que ce soit soumis à la raison. Bon. Donc, lorsque le concupiscible est soumis à la raison, il n'y a pas de problème. Lorsque le concupiscible se détache de la raison, se révolte contre la raison, on n'est plus dans le concupiscible, on est dans la blessure contre le concupiscible qu'on appelle la concupiscence. Le concupiscible est bon, la concupiscence est mauvaise. Donc le bon Dieu ne nous demande pas de ne plus avoir de désir. Si on n'avait plus de désir, on ne mangerait plus, ce serait mourir de faim. Si on n'avait pas de désir, l'homme ne se reproduirait plus et il n'aurait plus besoin de mariage. Donc il faut bien garder les choses. Donc la convoitise, dit saint Thomas, est naturelle à l'homme, une bonne convoitise, dans la mesure où elle est soumise à la raison. Bon. Il est bon pour l'homme qui a faim d'avoir une convoitise pour la nourriture, et dans l'usage de cette nourriture, il doit évidemment faire attention de ne pas trop manger, ou pas trop rechercher l'excellence dans la nourriture, à savoir faire un peu pénitence aussi en matière de nourriture. C'est là où on voit que les choses doivent être équilibrées. Donc tant que c'est soumis à la raison, ça va. Mais le problème, c'est que, je l'ai déjà dit, le péché originel a fait introduire dans l'homme, dans la raison humaine, une révolte. Le don préternaturel d'intégrité a disparu. Comme le don d'intégrité a disparu, la révolte est introduite dans l'homme. Cette révolte, c'est ce qu'on appelle la révolution. Donc il y a deux choses. Ou je suis la révélation, quand tout est ordonné vers Dieu, ou je rejette cette révélation et je m'attache à la révolution lorsque je me tourne contre Dieu. Révolvere en latin, ça veut dire changer de sens dans la rotation. On tournait d'un côté, un sens des aiguilles d'une montre, on tourne maintenant dans l'autre sens, dans un sens opposé aux aiguilles de la montre. Alors, il faut bien réfléchir à tout cela. Donc à chaque fois que je pêche, quand je multiplie les péchés, bien, j'augmente tous ces problèmes. La raison va se trouver de plus en plus hébétée, la volonté de plus en plus endurcie, l'irascible va avoir de plus en plus de difficultés à bien agir, et la convoitise va s'enflammer davantage au fur et à mesure que la concupiscence augmente. Donc, dans la mesure où elle est soumise à la raison, la convoitise est naturelle à l'homme. Mais quand elle sort des limites de la raison, c'est pour l'homme quelque chose de contre-naturel. Ça, c'est fondamental à expliquer aujourd'hui. Tous les désirs ne sont pas bons. Le désir de manger, c'est une bonne chose. Mais le désir de manger à longueur de journée, ou de ne chercher que des choses absolument exquises, de refuser de faire pénitence en matière de nourriture, c'est une chose mauvaise. Le désir de se reproduire est bon à l'homme. Il est même nécessaire pour la survie de l'espèce. Mais si ces désirs, même dans le mariage, sont complètement coupés de la génération, qui est le but du mariage, on se marie d'abord pour avoir des enfants et les éduquer proprement, les emmener au ciel, et bien si ce désir de reproduction n'est plus soumis à la raison, et bien on va chercher le désir par lui-même en le coupant de la fin pour laquelle le bon Dieu nous a donné ce désir. À ce moment-là, c'est l'introduction de la concupiscence de la chair. Donc, tous les désirs ne sont pas bons. J'ai déjà parlé de ça avant, mais ça c'est fondamental à comprendre. Là, on s'oppose à fond là aux fameuses doctrines de la psychanalyse de Freud qui disait tous les désirs sont bons. Les désirs font partie de notre nature, donc ces désirs sont bons. Au lieu de les cacher, comme l'Église catholique vous a demandé de le faire pendant des siècles, au lieu de cacher ces désirs, de les mettre à l'intérieur de votre poche avec une moussoir par-dessus et de vouloir les empêcher de fonctionner normalement, au contraire, laissez ces désirs sortir, ouvrez le cratère du volcan pour que la lave puisse sortir, pour que le feu de l'enfer puisse sortir partout. C'est ça la psychanalyse. Psychanalyse, c'est ça, c'est arrêtons de bloquer nos désirs. Les hommes modernes sont comme ça d'ailleurs. Ils vont vous dire l'homme est malheureux parce que l'Église catholique a empêché ses désirs d'être assouvis pendant des siècles et des siècles. Heureusement, maintenant, la révolution est arrivée. Nous savons qu'il faut laisser sortir tous ces désirs. Et c'est la catastrophe parce que ces désirs, lorsqu'ils ne sont plus soumis à la raison, vont absolument tout détruire et c'est ce qui se passe. Donc tous les désirs ne sont pas bons. L'amour de l'argent qu'on a pour s'occuper de sa famille est une bonne chose. L'amour de l'argent du voisin n'est plus une bonne chose. D'accord ? Et donc, il faut que tout ça soit soumis à la raison. Un désir de se marier, de trouver une épouse pour fonder une famille, avoir des enfants est une bonne chose pour quelqu'un qui a le droit de se marier. Le désir pour un homme de s'unir à quelqu'un du même sexe que lui, par l'homosexualité, est un désir contre nature. C'est ça qu'on dit que l'homosexualité est un péché contre nature. Vous voyez ? Et ça, c'est fondamental à comprendre. Alors, les gens modernes vont dire, mais si un homme a un désir que vous appelez contre nature, vous catholiques, un désir de s'unir avec un autre homme du même sexe que lui, eh bien, il faut respecter ses désirs parce que tous ses désirs sont bons. Non ! À cause du péché originel, à cause de la concupiscence, à cause de l'ignorance, à cause de la malice, à cause de la faiblesse, à cause des quatre puissances de l'âme, il y a des désirs qui sont mauvais. Et si ces désirs sont mauvais, eh bien, il faut lutter contre. Il est vrai qu'il peut y avoir des gens, j'en ai connu dans différents pays où j'ai été en mission, des gens qui peuvent avoir malheureusement ces mauvais désirs. Il y a des gens qui peuvent me dire, par exemple, sur l'abbé, j'ai un désir très fort en moi d'alcool. Je suis attiré par l'alcool, je suis attiré par la boisson, j'ai toujours envie de boire. C'est un désir très fort en moi. Monsieur, c'est un désir qui peut être naturel en vous, mais ce n'est pas parce que ce désir est naturel en vous que ça veut dire qu'il faut l'assouvir. Si ce désir est mauvais, la raison vous indique qu'il faut lutter contre ce désir et que donc il faut lutter contre la tentation de trop boire. Et si vous n'êtes pas capable de lutter contre ce désir, il faut tout simplement supprimer complètement la présence d'alcool dans votre maison pour être sûr que vous ne succombez pas à ces désirs. Bon, c'est comme si quelqu'un me dit, monsieur l'abbé, moi j'ai un désir de la femme du prochain, mais c'est pas parce que vous avez un désir de la femme du prochain que ça veut dire que vous avez le droit d'aller vous en emparer. Parce que ce désir est mauvais. Donc, si une personne me dit, monsieur l'abbé, malheureusement, il y a des gens comme ça, c'est une grosse croix d'ailleurs, je les peins de tout mon cœur, ces pauvres gens. Il y a des gens, des hommes qui me disent, monsieur l'abbé, moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été attiré par les hommes, j'ai jamais été attiré par les femmes. C'est un désir naturel en moi. Il y a un désir naturel en vous, peut-être, Je reconnais qu'il est naturel en vous, mais ce désir va contre la nature même de l'homme. Donc, vous avez le devoir de ne pas la souiller et lutter contre. Donc, utilisez la confession, utilisez la communion, utilisez les sacrements, priez, faites pénitence pour arriver à juguler ce désir. Vous n'arriverez pas à l'éliminer complètement, mais vous arriverez à vivre un état de grâce. Et j'ai connu des gens qui avaient ce genre de problème, malheureusement, et qui sont devenus des saints, littéralement, parce qu'ils ont lutté de toutes leurs forces pendant leur vie contre ces tentations contre nature, et qui, par l'usage des sacrements surtout, eh bien, ils ont réussi à avoir des vies naturelles magnifiques. Mais évidemment, ils vont me dire, vous savez, je ne vais jamais pouvoir me marier parce que je ne suis pas du tout duré par les femmes. Eh bien, le bon Dieu ne vous oblige pas à vous marier. Le bon Dieu a pardi, ces gens qui sont pas mariés ne peuvent pas aller au ciel. Non. Si vous avez des désirs contre nature comme l'homosexualité, évidemment, vous ne pourrez jamais vous marier avec une épouse puisque vous n'avez aucune attraction vers une femme. Mais le bon Dieu va vous donner, par l'usage des sacrements, les grâces dont vous avez besoin pour lutter contre ces mauvais désirs. Vous voyez, les catastrophes, justement, qui sont faites actuellement aux âmes, dans les âmes, les destructions irréparables pratiquement dans les âmes des enfants, dans les écoles modernes dans lesquelles on instille dans l'âme des enfants cette idée complètement fausse que puisque les gens ont un désir, eh bien, il faut respecter ce désir. Alors on va dire aux petits-enfants, aux petits garçons de 6 ou 7 ans, vous êtes un garçon, mais vous savez, vous pouvez devenir une femme si vous voulez. On va dire aux petites filles de 6-7 ans, vous êtes une fille, mais vous pouvez devenir un garçon si vous voulez. Vous voyez, c'est malheureusement la théorie du genre qui est complètement farfelue, mais qui malheureusement passe maintenant dans les esprits pour détruire complètement les âmes. Et puis une fois que les gens ont mis la main, le doigt dans ces désirs contre nature, c'est très 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 difficile de les en retirer. Donc la convoitise, je répète ce dernier paragraphe de la question 85 article 3, la convoitise est naturelle à l'homme dans la mesure où elle est soumise à la raison. Mais qu'elle sort des limites de la raison, et c'est pour l'homme contre nature. On peut donc appeler communément faiblesse toute passion en tant qu'elle débilite la raison, la force de l'âme et entrave la raison. Donc on peut dire en conclusion que toute tentation, toute chose qui dépasse les limites de la raison est contre nature. Donc la révolution introduite par l'âme dans l'âme par le péché originel, évidemment, ne cesse qu'une seule chose, c'est à détruire l'ordre de la nature. Cet ordre de la nature qui existait, l'ordre de la nature qui existait parfaitement en Adam et Ève. N'oubliez pas qu'Adam et Ève avaient le don préternaturel d'intégrité. Intégrité, c'est quoi? C'est justement la soumission naturelle. Les passions sont soumises à la volonté est soumise à l'intelligence, et l'intelligence à Dieu, souvent tout marche, vous voyez. C'est pour ça que l'éducation est tellement importante. L'éducation est tellement importante chez les enfants parce que les parents ont le devoir grave, sous peine de péché grave, d'éduquer leurs enfants pour leur apprendre à utiliser correctement leur intelligence, leur volonté, les racines et concupiscibles. Imaginez un petit garçon de 5 ans qui dit à sa maman, moi j'ai un désir naturel de prendre un kilo de bonbons tous les jours. Et donc je vais piocher dans la boîte aux bonbons de la maison tous les jours un kilo de bonbons parce que j'en ai besoin, ça correspond à ma nature. Il ne faut pas que la maman, viciée par les idées modernes, dise à son petit garçon, « Oui, mon petit garçon, si c'est ton désir naturel, c'est quelque chose qu'il faut respecter, alors tu peux prendre un kilo de bonbons tous les matins. » Un enfant va devenir énorme et va mourir littéralement avec un taux de glycémie qui va augmenter phénoménalement dans son âme, dans son corps, et puis il va vite mourir. Bon. Et c'est pareil pour tout. Si un petit garçon dit à sa maman, un petit garçon de 6 ans dit à sa maman, « Ma nature veut que je ne puisse pas supporter la contradiction. Donc, dès que j'ai une contradiction avec mes petits frères et sœurs, eh bien, je me dispute. Je serre les poings et je me bagarre contre mes frères et sœurs parce que c'est ma nature. Donc, il faut respecter ça. La maman ne doit pas dire, mais oui, mon petit chéri, il n'y a pas de problème. Eh bien, c'est ta nature. Bah, alors, tu peux estropier tes frères et sœurs et te bagarrer avec eux à coups de bâton à longueur de journée. Il n'y a pas de problème. Oui. Et c'est pour tout ça. C'est pour ça, j'ai connu plusieurs cas comme ça de pères de famille absolument désespérés, littéralement, qui venaient me voir en disant « Monsieur l'abbé, je ne sais plus quoi faire, mon garçon de 16-17 ans là, vient de m'avouer qu'il avait une tendance homosexuelle, qu'est-ce que je dois faire ?» Bon, eh bien, il faut, la réponse, elle est là, justement. Elle est dans ce fait que cette tendance que votre fils a est une tendance contre nature, et qu'il faut donc l'aider dans la pratique des vertus, à utiliser les vertus qui vont l'aider à lutter contre cette tendance contre-naturelle. Et donc la tempérance, donc il faut qu'il fasse attention Surtout de ne pas rencontrer des gens qui ont les mêmes tendances que lui, pour pas tenter d'augmenter cette mauvaise tendance. Et avec la grâce du bon Dieu, eh bien, il arrivera à lutter contre ces tentations. Voyez. Alors, passons maintenant, on commence au moins la question 85, article 4. La privation de mesure, de beauté et d'ordre est-elle l'effet du péché? Encore un article magnifique qu'on trouve donc dans Saint Thomas d'Aquin. On a fini d'expliquer l'article 3. La privation du mode, de l'espèce et d'ordre est-elle un effet du péché? Donc, Saint Thomas d'Aquin, on est à la page 461, deuxième partie de la page, donc, deuxième moitié de la page. Prima seconde, question 85, article 4. La privation de mesure, de beauté et d'ordre est-elle l'effet du péché? On peut traduire ça d'une autre façon, si vous voulez, la privation de l'intégrité, si vous voulez, est-elle un effet du péché? Le manque d'intégrité, la destruction de l'intégrité, et c'est justement la destruction de mesure, de beauté et d'ordre. Lorsqu'une chose est belle, lorsqu'une chose est intègre, eh bien, parce qu'une chose suit la nature, il y a une mesure, une beauté, un ordre dans cette chose. Le péché, dit saint Thomas, est dans une âme comme la maladie dans un corps. Donc le péché inflige à l'âme les mêmes privations. C'est une comparaison qui est très vraie. C'est-à-dire, au début, lorsque les premiers symptômes d'une maladie apparaissent dans un corps, eh bien, le corps n'est pas encore trop affaibli par cette maladie. Si vous allez voir un bon médecin, immédiatement, dès l'apparition des premiers symptômes, le médecin peut s'occuper de vous immédiatement et en vous donnant les médicaments qui sont nécessaires ou en vous faisant un changement de régime alimentaire ou en vous donnant certaines opérations chirurgicales, par exemple, il peut détruire la chose et vous allez retrouver l'ordre. Imaginez quelqu'un qui a un début de cancer, on prend le cancer tout à fait à son début, bon, ben on peut, avec la grâce du bon Dieu, on peut, avec un processus parfois chirurgical ou des choses naturelles, je ne sais pas, eh bien, on peut justement enlever cette partie malade du corps et empêcher les métastases de se produire, contenir en quelque sorte le cancer et sauver l'individu. Bon, au contraire, plus on attend, plus ça devient grave. Et si vous attendez trop longtemps, eh bien, les métastases font partout, on ne peut plus rien faire. Le médecin, il va vous opérer, il va vous ouvrir l'abdomen, il referme tout de suite, il n'y a plus rien à faire, c'est trop tard. Préparez-vous à la mort. Mais c'est la même chose dans l'âme. C'est la même chose dans l'âme. Donc le péché est dans une âme comme une maladie qui ronge le corps. Le péché est un cancer spirituel. Cancer spirituel. Et il est très important, justement, qu'on ait ces facultés de lutte contre le cancer spirituel. Et Mgr Lefebvre avait une expression que j'aimais bien. Il disait lorsque le péché devient trop important dans une âme, eh bien c'est comme un sida spirituel. Le sida détruit les puissances naturelles de réaction contre l'envahisseur dans un organisme. Tous les systèmes lymphatiques et tous les moyens naturels que Dieu a donné à un homme pour lutter contre une contamination microbienne, par exemple, ou virale, eh bien toutes ces choses sont détruites. Et il n'y a plus de moyen de lutte contre les agents pathogènes. Et donc, et ben, les maladies vont rentrer dans l'âme comme avec une porte grande ouverte et faire des dégâts. C'est ce qu'on voit malheureusement dans certains cancers. Et bien, c'est la même chose sur le plan spirituel. Donc, plus on laisse le péché s'introduire dans une âme, plus on laisse les racines du péché s'introduire dans une âme et se transformer en vice, plus les conséquences sont graves. Alors, donc saint Thomas, oui, on voit bien que saint Thomas a compris l'importance de ces points-là. Donc, dans l'article 4 de la question 85, donc il va reprendre ce qu'il a déjà expliqué, mais il va reprendre avec, si vous voulez, une petite modification. C'est la même chose qu'il examine, mais sous une manière différente. Mais c'est, pour prendre une image toute simple, c'est un magnifique diamant qu'il examine, mais il tourne le diamant légèrement pour que les facettes soient différentes. Donc le diamant est toujours le même diamant, mais il va refléter la lumière qu'on projette sur lui de façon différente selon le nombre de facettes qui sont face à la lumière. Donc saint Thomas explique qu'aux divers degrés de bien correspondent divers degrés de mesure, de beauté et d'ordre. Donc quand une chose est équilibrée, quand une chose est ordonnée, quand une chose est selon la loi naturelle, donc il y a une mesure, une beauté et un ordre. Ça c'est absolument fondamental à comprendre. Bon. Donc il y a donc plusieurs choses. D'abord, dit saint Thomas, il y a un bien constituant le fond même de la nature, qui a sa source, sa mesure, sa beauté, son ordre. Donc ce bien n'est ni enlevé ni diminué. Ce qu'on a déjà expliqué avant sous une autre forme, les puissances de l'âme ne sont pas éliminées par le péché. Bon. Quant à l'inclination de la nature, un autre bien, dit saint Thomas, ce bien a aussi son mode, sa beauté, son ordre, et le péché a pour effet de le diminuer, mais non de le supprimer totalement. Donc on a expliqué déjà, l'inclination à la vertu diminue. Enfin, il y en a encore un bien, celui de la vertu de la grâce, qui a également son mode, sa beauté, son ordre, et celui-là est totalement supprimé par le péché mortel. Donc rappelez-vous ce qui a déjà été expliqué auparavant, ça c'est la justice originelle qui saute complètement. Donc le premier bien, le bien de la nature, n'est pas ni enlevé ni diminué. Rappelez-vous la petite phrase latine, naturalia manserunt integra. Les choses naturelles demeurent. Bon. Le deuxième bien, l'inclination de la nature, c'est la petite phrase latine, vulneratus in naturalibus. L'inclination à la vertu est diminuée par le péché. Et enfin, le dernier bien, la spoliatus gratuitis, disaient les anciens, la vertu et la grâce, tout ça est complètement disparu, est complètement éliminé par le péché. D'accord ? Et quatrièmement, saint Thomas rajoute un point là, il y a encore le bien de l'acte lui-même, lorsque cet acte est parfaitement ordonné, et ce bien aussi a sa mesure, sa beauté, son ordre, et la privation de ce bien est essentiellement le péché. Donc, en résumé, si vous voulez, il y a donc dans l'âme une beauté surnaturelle qui va permettre le développement surnaturel des vertus. Au contraire, lorsque le péché est dans une âme, le péché mortel est dans une âme, eh bien, il y a une laideur intrinsèque. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Dans les exercices saint-Ignace, saint-Ignace en parle dans les premières méditations pour préparer les confessions générales. Il dit qu'il faut voir la laideur intrinsèque du péché, de l'acte pécaminé, même si ce n'est pas interdit. Quelque chose de laid dans le péché. Ça, c'est fondamental aujourd'hui parce que les modernes, les modernistes, les gens modernes, les gens qui ont l'esprit du monde, essaient de nous faire croire que le péché est quelque chose de beau. Qu'il y a une beauté intrinsèque au péché. Non, le péché est mauvais. Et plus on cache la laideur du péché, plus on est coupable. Un père de famille qui cache la laideur de son péché à un enfant va pousser l'enfant dans le péché, évidemment. Et donc on reviendra sur tout ça au prochain cours, hein, parce que ce sont des choses, encore une fois, des choses extrêmement, extrêmement importantes qu'il faut soigneusement étudier. Donc je vous conseille beaucoup pendant cette semaine, parce que je mets un cours sur Internet chaque semaine, donc pendant cette semaine, relisez soigneusement question 85, la première secondée, article 1, article 3 et article 4. Et si vous avez la somme théologique chez vous, vous pouvez aussi facilement obtenir le texte, certainement en téléchargeant sur Internet, et bien étudiez le texte complet de la somme théologique de saint Thomas sur ces points-là. Donc, articles 1, 3 et 4 de la question 85 de la prima secondée. Nous allons maintenant terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pie X, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.